terroriste, divergence numérique, eh bien, en direct de Vendeuvre-les-Nancy pour les 7e rencontres du logiciel libre, rencontre mondiale s'il en est, puisque le Québec, l'Inde, l'Amérique latine sans doute,
L'Europe du Nord aussi.
L'Europe du Nord aussi, puisqu'on a des représentants du Danemark, le Maroc, sont réunis entre autres pays et entre autres disciplines pour aborder ces 7e rencontres mondiales. On est donc en direct du campus Henri Poincaré à Vendeuvre-les-Nancy. On écoute cette émission à Nancy et dans la région sur le 94.2 de Radio Fadjet, à qui nous faisons un grand coucou, et puis évidemment sur le 93.9 de Divergence FM à Montpellier et partout ailleurs sur internet divergence-fm.org en l'occurrence. Aujourd'hui, eh bien, comme on vous l'avait annoncé hier, l'événement du jour, ce sera la table ronde politique qui réunira François Bayrou, Martine Billard, Richard Cazenave, Christophe Espern, qui a communiqué ce matin sur autour du projet de loi qui n'est plus un projet, DADVSI, et Michel Rocard qui sera là aussi. Donc ce sera cet après-midi à partir de 16h jusqu'à 18h30. Et puis d'autres rendez-vous aussi, notamment en début d'après-midi à 14h, sur l'édition, le monde de l'édition pour les logiciels libres. Et on va en parler avec Sébastien Blondel, qui est un des auteurs majeurs, on va dire, des éditions Erol. Muriel Sancheifan viendra nous rejoindre aussi dès qu'elle aura fini son déjeuner. Et puis, c'est aujourd'hui que Albert Bruck nous a rejoint. Bonjour Albert.
Bonjour Gilles. Comme quoi tout arrive, même moi, aux rencontres mondiales.
Voilà, tu as fait un bon voyage, j'imagine.
Assez long, en train c'était assez l'horreur, mais bon, je suis arrivé, c'est l'essentiel.
Très bien, alors on a souvent parlé dans Divergence Numérique, fait mention des éditeurs qui publient autour des logiciels libres, que ce soit des ouvrages pointus, spécialisés à destination des connaisseurs et informaticiens, ou que ce soit des ouvrages de vulgarisation, puisque le libre a besoin de se faire connaître, de se vulgariser et de s'étendre un petit peu partout. Donc on va commencer avec Sébastien Blondel. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez contribué à beaucoup d'ouvrages parus notamment aux éditions Erol. Je cite en vrac un ouvrage assez récent sur Wikipédia, un ouvrage auquel vous avez contribué, La révolution Google, ou encore Débuter sous Linux, en l'occurrence, là, c'était avec Mandriva. Est-ce que c'est votre formation de base que d'être écrivain ?
Non, pas exactement. J'ai fait des études d'informatique après le bac, surtout après bac plus 2. Je me suis spécialisé en informatique, mais j'ai toujours aimé essayer de bien écrire. Il y a des ouvrages qui sont à plusieurs titres. Je suis soit auteur, j'ai revu la traduction, soit je suis co-auteur. Donc c'est à chaque fois des qualités, des expériences aussi bien littéraires, entre guillemets, ou humaines différentes, puisque le travail change. Traduire depuis l'anglais, par exemple, il existe des écoles, des formations spécialisées que je n'ai pas suivies. Je fais ça à l'intuition, et mon éditrice, qui elle est une professionnelle de la traduction, qui a fait une école de traduction à Paris,
a trouvé que le travail était...
Oui, trouvait que c'était bon, et elle essaie justement d'accompagner mon intuition en me donnant des éléments techniques pour que j'aille plus vite, au lieu d'hésiter ou de faire parfois des petites fautes que je ne remarque pas toujours. Mais...
C'est plus une adaptation, donc une réelle traduction.
Oui, Muriel vous le dira, une mauvaise traduction n'est pas une traduction, et une bonne traduction est une adaptation. Ça, c'est son point de vue. C'est-à-dire qu'il faut toujours essayer de ne pas choquer le lecteur et d'écrire par rapport à la culture cible. Pas d'anglicisme, évidemment, mais ne serait-ce qu'une référence culturelle sur une chaîne de supermarché américaine qu'un lecteur français ne va pas connaître. On peut essayer soit de l'adapter directement, ou alors au moins signaler en note de bas de page comment comprendre la référence.
Combien d'ouvrages aujourd'hui avez-vous écrit ou auxquels avez-vous collaboré depuis le temps que vous faites ça?
Voilà, ça c'est une question que j'aurais il aurait fallu me poser plus tôt.
Ça veut dire beaucoup.
J'ai pas le nombre en tête. Oui. Une dizaine ou une quinzaine, ça dépend si on compte les différents éditeurs ou différentes éditions. J'ai commencé en 97-18 surtout.
Ça fait une petite dizaine d'années, on va dire.
Je ne fais pas que ça, mais parce que j'ai eu des périodes où je suis parti travailler, je suis revenu plutôt sur l'édition. Donc, c'est ça, l'ordre de grandeur, c'est une dizaine, mais ça peut être 20, entre 10 et 20 probablement.
C'est aujourd'hui une activité constante à plein temps ?
C'est à la fois une activité constante à plein temps et pas, puisque Je ne suis pas salarié, c'est à chaque fois des contrats. Donc pendant un contrat, on a une date limite à respecter, un travail qui en général est calculé pour nous occuper en nous laissant un peu de marge. Si jamais on prend du retard ou si jamais on veut prendre un jour ou deux pour faire autre chose. Mais entre deux contrats, on n'a aucune garantie. Alors bon, évidemment, après, on entretient des rapports, entre guillemets, cordiaux avec ses fournisseurs, si on veut, entre guillemets, c'est-à-dire l'éditeur qui nous donne le travail. C'est l'éditeur qui avait un projet sur le livre Wikipédia, qui me l'a confié, qui a eu l'idée du livre débuté sous Linux et qui me connaissait par ailleurs, qui me l'a confié. Mais c'est vrai que là, je travaille sur une traduction encore, qui va être finie d'ici quelques jours, une semaine. Des conseils sur la gestion du temps, mais après ce livre-là, j'ai aucune garantie, si ce n'est la parole donnée ou l'assurance informelle que j'aurai encore du travail à court, moyen ou long terme. Mmh.
Alors, y a Muriel qui nous rejoint à présent, donc la responsable des éditions Erol. Bonjour.
Bonjour, je suis juste responsable des livres d'informatique.
D'accord.
Non, pas du tout de toutes les éditions Erol.
Alors, on a un petit peu l'impression quand même que le libre se développe à la hauteur de la motivation de ses acteurs. Est-ce qu'il y a un grossissement constant? Est-ce qu'il y a une demande de plus en plus importante de littérature sur le sujet?
Alors, en fait, il faut savoir qu'au départ, les premiers livres qu'on a faits, c'était fin 2003. Le premier livre, c'était sur OpenOffice.org, réellement coloré logiciel libre. Nous l'avons fait sans demande préalable. On ne savait pas, on prenait un risque. Et c'est vrai que le livre a très bien marché. C'est sûr qu'avec un auteur comme Sophie Gauthier, la responsable de la communauté francophone OpenOffice, on ne prenait pas finalement tant de risques que ça. Mais du coup, ça nous a encouragés à faire d'autres titres. Et le succès ne se dément pas. Il y a beaucoup d'éditeurs concurrents maintenant qui font des livres sur le logiciel libre, sur Linux.
Est-ce que les chiffres de vente sont à la hauteur justement des espérances des éditeurs en général ?
Alors, de mon point de vue, ça dépassait nos espérances. Mmh. Ça dépassait nos espérances. Je pense qu'on peut, on tourne aux alentours de 10 000 exemplaires par an ou par an et demi en fonction des sujets. Donc c'est tout à fait honorable. Pour des livres techniques, c'est vraiment très très bien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup d'éditeurs sur ce secteur, des livres sur le logiciel libre orienté utilisateur. Évidemment, des livres d'administration Linux Unix, ça existe depuis longtemps. Il y avait les éditions Rayi, évidemment, qui en faisaient beaucoup, les éditions Erol également. Mais bon, tout ce qui était utilisateur, on prenait vraiment un risque. Et voilà.
Les éditions Erol, contrairement aux éditions O'Reilly qui font souvent de la traduction, ont fait un choix d'édition d'œuvres originales en français. C'est un choix qui continue, même si maintenant vous commencez aussi à faire de la traduction, ou est-ce que ça va diminuer, augmenter
Alors en fait, on a toujours fait quelques traductions. C'est vrai que je connais pas O'Reilly précisément, mais je pense qu'ils doivent avoir certaines contraintes en interne. Nous, on fait des traductions quand on est, étant donné le coût très important de toute traduction, on en fait quand ce sont des livres soit qui comblent vraiment un trou évident, soit qui sont écrits par des gourous, quand on est sûr qu'on prend pas trop de risques. En ce qui me concerne, moi, j'ai toujours fait des bouquins d'auteurs français, ce qu'on appelle des créations. Et c'est vrai que récemment, j'ai pu lancer quelques traductions, mais on reste quand même orienté. Enfin, notre souhait, c'est quand même de donner la parole à des experts français, parce que quand même, on s'adresse à des lecteurs français.
Et est-ce que vous exportez maintenant ou pas encore ?
Alors, exporter, qu'est-ce que vous entendez, entendez par là ?
Envoyer, par exemple, je ne sais pas, un livre qui va être traduit en allemand, en anglais,
D'accord,
en
alors, oui, le problème, c'est quand on veut traduire dans une langue étrangère, c'est de trouver un partenaire, parce que les circuits de distribution à l'étranger sont détenus par des éditeurs étrangers. On est obligé de faire des coéditions ou de vendre les droits à des éditeurs étrangers. On ne peut pas nous-mêmes distribuer un livre que nous traduirions nous-mêmes en langue étrangère.
Et ça se fait ou pas ?
On essaye toujours, bien sûr. Alors évidemment, quand on a un contact, quand l'auteur nous dit « Ah ben, au fait, j'ai trouvé tel traducteur qui pourrait... » Et on lui répond à chaque fois « Oui, alors il faudrait... Est-ce qu'il y aurait un éditeur également intéressé ?» Parce que ça ne suffit pas de traduire. Donc on essaye, mais nos chances sont infimes. Quand on voit le nombre, la richesse du catalogue anglophone, on a très peu de chances de voir un de nos ouvrages traduit.
Alors justement, dans la francophonie, est-ce que vous arrivez à avoir un rayonnement aujourd'hui ? Est-ce que c'est à l'étude ? Parce qu'il y a quand même pas mal de pays qui...
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et alors là, c'est vrai qu'on a... le problème toujours, c'est que l'éditeur, lui, prend des risques, mais la partie commerciale, on sait par défaut qu'il limite, il diminue le risque. Donc c'est une fois qu'il voit que les livres marchent, qu'éventuellement, ils vont investir dans un effort de rayonnement. Parce que effectivement, tout ce qui est visibilité, c'est de l'investissement, aussi bien dans les librairies en France que dans les librairies à l'étranger.
Et l'investissement financier.
Oui, tout à fait. Oui, oui. Bah, on en revient à ça. Hein, toujours, c'est il faut vivre, il faut gagner de l'argent. Donc les risques qu'on prend, ce sont des risques qu'on calcule ou qui sont en tout cas contrebalancés par d'autres succès. D'un point de vue éditorial, quand on prend des risques sur un sujet nouveau, ça veut dire que d'autres titres ont bien marché. C'est important d'ailleurs de prendre des risques.
Il y a une difficulté particulière qui saute un petit peu aux yeux quand on pense à l'édition de bouquins sur l'informatique, a fortiori sur les logiciels libres qui ont la réputation d'être mis à jour plus rapidement, d'évoluer plus vite que leurs homologues propriétaires parfois. On a vu ce matin lors d'un atelier autour de Hardour que son concurrent commercial Pro Tools a pas du tout évolué depuis pas mal d'années. Justement, si on sort un bouquin sur la version N, combien de temps on a pour le vendre avant de pouvoir sortir un autre bouquin sur la version N plus 1 ?
Eh bien, c'est un cauchemar, c'est un casse-tête, c'est un calcul très difficile. Il faudrait arriver à prévoir quand la nouvelle version sortira, arriver à prévoir un chiffre de tirage, un nombre d'exemplaires pertinent, et c'est vraiment un casse-tête. C'est vraiment un casse-tête. Donc, en toute franchise, il y a un petit peu on fait des choses parfois un peu au jugé. Mais je trouve ça, du coup, plus excitant, parce que pour moi, toute nouvelle version, c'est une chance supplémentaire d'améliorer un manuscrit. Et justement, parfois, la sortie d'une version importante peut nous contraindre à le sortir plus vite. Et parfois, il y a des choses sur lesquelles on va passer et qu'on aura la chance, justement, dans une nouvelle édition, d'améliorer. Mmh.
Ça veut dire qu'il y a une perspective de réédition permanente dans
oui,
votre travail ?
Oui, en ce qui me concerne, oui, toujours. Toujours. Jacques, alors c'est pour ça que les errata, quand on reçoit des critiques de lecteurs, on est toujours très content. On essaye de ne pas les perdre, parce que j'avoue que en interne, il faut avoir des structures pour recevoir et garder ces informations sur le temps. Et parfois, on n'est pas forcément super bien équipé. On est toujours très très content d'avoir des critiques, des errata, et qu'on essaie par contre de publier tout de suite sur le site d'accompagnement.
Erol a d'ailleurs fait pour son site internet le choix du livre, donc c'est pas seulement...
Tout à fait. Oui, alors, très souvent dans une entreprise, les gens qui vont faire avancer sont des gens qui ont un certain pouvoir opérationnel et pas forcément un pouvoir politique. Dans notre cas, on doit beaucoup à Olivier Meunier, qui est maintenant chez Open Web et qui, je crois, travaille avec Mozilla, la Mozilla Europe, parce que c'était lui qui avait effectivement beaucoup poussé pour l'utilisation des CSS, le respect des standards du web.
Olivier Meunier, qui, rappelons-le, est le créateur de...
De DotClear, tout à fait, tout à fait.
Combien d'auteurs travaillent pour les éditions Erol ?
Ouh là là, alors je...
Enfin, une approximation.
Alors moi, les auteurs qui travaillent pour... Ben, je ne vais pas peut-être parler de mon cas, parce que déjà ça sera peut-être représentatif. Je ne sais pas, 60, 100. Voilà, et ce qui est génial, c'est quand un auteur est heureux d'avoir appris des choses, d'avoir fait quelque chose dont il peut être fier et qu'il souhaite refaire un livre. Et ça, c'est toujours très satisfaisant. Et j'ai l'impression que c'est plutôt la majorité de nos auteurs.
Alors aujourd'hui, l'édition Erol, c'est ce secteur de la publication informatique. C'est un secteur qui est en plein développement,
Il y a eu une crise en 2002, 2003, 2004. On avait une sacrée crise du livre d'informatique. Du coup, c'est un cercle vicieux, parce que quand il y a une crise, les gens achètent moins. Et donc, les libraires vont réduire les rayons. Et voilà, vous voyez bien comment ça peut entraîner. C'est vraiment un cercle vicieux. Et je crois qu'on a très, très bien résisté, justement, grâce au logiciel libre. Au livre sur les logiciels libres, et ça, j'en suis très fière. Voilà.
Alors, des livres sur les logiciels libres, c'est vrai que les logiciels libres, ça, on va dire pour le grand public en France, c'est assez récent. Il y a une communication qui se fait depuis pas mal d'années déjà, mais historiquement, c'est relativement récent. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs et du coup, de plus en plus d'acheteurs potentiels de documentation.
C'est notre souhait. Alors là, d'un point de vue éditorial, d'un point de vue politique éditorial, donc j'ai commencé avec, finalement, avec le recul, c'était des valeurs sûres maintenant. Et puis, tout le monde est d'accord chez Erol pour dire, ah oui, maintenant, les livres sur le libre, c'est bien. C'est vrai qu'on a commencé donc sur des valeurs sûres, entre guillemets, à savoir OpenOffice, Firefox, GIMP, des best-sellers. Tous ces livres sont des best-sellers. Et c'est vrai que maintenant, j'essaye un petit peu d'aller plus loin dans la difficulté, c'est-à-dire de faire des ouvrages vraiment grand public, donc orientés vers des gens qui n'ont pas réellement une bonne culture de ce qu'est l'Internet, de ce que ça permet, de tout ce qui est production collaborative de documents. Et puis, j'essaye également d'aller dans la direction des outils libres pour les TPE. Donc, je fais un peu le grand écart. Et puis, bon, évidemment, on a toujours des trous à combler. Il y a tout ce qui est administration professionnelle, où j'aimerais bien aller plus loin.
Là, il faut que justement qu'il y ait un lectorat, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui commencent à les utiliser, ces logiciels.
Oui, alors. Oui, on ne peut pas faire un livre. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais on ne peut pas faire un livre quand le logiciel n'est pas, entre guillemets, mûr, c'est-à-dire quand il n'y a pas assez de lecteurs. C'est vrai que c'est souvent, je suis obligée de répondre négativement à des propositions de manuscrits sur des logiciels qui ne sont pas encore assez visibles. Et il faut savoir que sortir un livre trop tôt sur un logiciel qui n'est pas encore assez connu ou pas mûr, ça a un effet négatif sur l'éditeur, évidemment, parce qu'on perd de l'argent, mais également sur le logiciel, parce que ça peut donner vraiment une mauvaise image du logiciel. Donc c'est important d'être à temps, pas trop tôt. Voilà.
Alors on a vu hier matin dans le monde de l'entreprise, notamment je pense à la conférence de Michel Gonzalez de Applicam, où là il s'agissait d'une entreprise qui fait des cartes à puces avec des bornes dans les écoles, etc., pour gérer un petit peu tout. C'était du Linux embarqué, on va dire. Oui. Et à la question lors de la conférence, à la fin de la conférence, quand quelqu'un a demandé est-ce que du coup, au niveau de vos postes administratifs, est-ce que vous utilisez OpenOffice, est-ce que vous avez... est-ce que vous êtes entièrement passé au libre, etc. La réponse était non. En ce qui concerne la maison d'édition, il y a des outils très puissants pour les éditeurs, pour la fabrication de livres. Est-ce que chez Erol, vous utilisez ces outils-là?
Oui, moi, c'est simple. Depuis le livre sur OpenOffice, on utilise OpenOffice en interne. Peut-être pas tous les éditeurs, mais en tout cas, moi c'est sûr, c'est quasiment tout le temps du OpenOffice parce qu'on reprend le content.xml qui est dessous pour le mouliner et le mettre en page. Et c'est vrai que souvent j'entends dire que OpenOffice, la mise en page c'est pas terrible, mais c'est vrai que nous, en tant qu'éditeurs, on s'en sert uniquement comme outil de structuration d'informations et surtout pas d'outil de mise en page. Donc on utilise OpenOffice et on utilise SVN, Subversion, pour gérer de façon collaborative des projets en amont. Voilà. Et puis sinon, on a fait des mises en page grâce à une chaîne Docbook, LaTeX, PDF. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est vrai qu'en interne, on utilise Firefox beaucoup, Thunderbird.
Pour la comptabilité de l'entreprise, par exemple,
c'est
ce genre
pas...
de choses.
Oh là là, oh si vous saviez. Je pense que ça doit être dans la plupart des PME. Il y a des sortes de verrous pour passer des informations. Ce qui pourrait sembler évident, l'intérêt à long terme qu'on peut tirer d'une chose, on peut avoir vraiment beaucoup de mal dès qu'il s'agit de changement. On peut avoir vraiment beaucoup de mal à faire passer l'info. Pourquoi pas. C'est très difficile. On est une PME comme les autres.
Alors, vous publiez des bouquins sur le libre. Quelque part, il y a aussi une forme de militantisme qui habite l'équipe.
Oui, en ce qui me concerne en tout cas, c'est sûr. Ne serait-ce que dans le choix des livres que je publie. Ce qui me sert, c'est que ces livres marchent. Sinon, je n'aurais pas cette marge de manœuvre. Donc, c'est vraiment très important que j'arrive à vendre ces collections et ces livres. Mais sinon, une forme de militantisme, oui, je crois qu'on s'implique pas mal dans plein d'événements autour du logiciel libre. Et puis en interne, je crois qu'on a pas mal de personnes qui sont convaincues tout simplement de l'intérêt pour tout le monde, même pratique, hein, d'utiliser des logiciels libres.
Quel rapport ont les éditeurs qui publient des bouquins sur les logiciels libres entre eux ? Est-ce que justement,
oui.
L'ouverture d'esprit qui caractérise le libre, est-ce qu'elle se retrouve aussi dans les rapports que peuvent avoir des entreprises entre guillemets concurrentes ?
Oui, je pense que de toute façon, alors c'est très étrange parce que évidemment l'intérêt d'une entreprise c'est de gagner des sous. Parfois, ça peut être d'écraser ses concurrents. Donc on a cette chose un petit peu ambiguë, mais quand ils se retrouvent autour d'un livre ou de documentation, je pense que ce qui reprend le dessus, c'est quand même le fait de faire des livres utiles, qui utilisent le logiciel libre notamment. Et puis, bon, les auteurs entre eux, ils ont de très bonnes relations. Moi, j'adore mettre en relation tous les gens qui participent à un projet. Parfois, ça va être qu'ils participent à une collection. Et en général, ils ont de bons rapports entre eux. Et puis, ils peuvent se taper dans le dos et se partager toutes les souffrances vécues autour de la production de leur manuscrit.
Albert n'a plus de questions. Au niveau de l'actualité des rôles, qu'est-ce qui va bientôt sortir ?
Ouh là là. Alors, en toute franchise, j'ai même pas tout en tête parce qu'il y en a trop. Mmh. Je signale peut-être quand même le livre de Martin Kraft sur Debian, un énorme livre de référence qui est très pointu, traduit par Raphaël Herzog, Roland Mass et dirigé par Nat Makarevich, donc des gens qu'on connaît bien, qui sera en librairie dans 15 jours, ainsi qu'un livre sur SSL VPN par Benjamin Sontag. Et sinon, il y a la collection Connectez-moi. On a fait un livre donc sur le pair-à-pair, sur le peer-to-peer. Très, très d'actualité pour tenter de dédiaboliser un petit peu cette technique. On a fait un livre sur Wikipédia justement pour tenter d'éduquer le grand public à tout ce qui est mode de production collaborative. Voilà.
Aussi, sur le livre sur Wikipédia, l'auteur est en face de nous, Sébastien Blondel. Un ouvrage qui sait aussi être critique et objectif, quoi. C'est pas parce qu'on fait du libre et qu'on parle d'autres projets libres qu'on va les caresser dans le sens du poil. Il y a aussi une bonne part de regard critique dans cet ouvrage.
Oui, c'est-à-dire que je m'adresse au lecteur comme j'aimerais qu'on me parle à moi, et je trouve qu'un compliment est plus convaincant quand il est accompagné d'une liberté de blâmer qui elle-même doit s'exercer. Étant effectivement peu impliqué en termes de contribution dans Wikipédia, c'est un projet que je connaissais bien et dont j'entendais de plus en plus parler depuis un moment. J'étais peut-être moins le prisonnier de mon propre investissement émotionnel, et ça m'a permis de remarquer plus facilement des points de détail en général qui étaient perfectibles et que j'ai signalé au fur et à mesure que je les voyais. Ouais. Si je devais être lecteur d'un livre comme ça, je serais plus convaincu encore des bonnes choses qui sont dites à côté si je voyais que l'auteur n'a pas peur ou n'a pas l'hypocrisie de balayer sous le tapis les petits problèmes qu'il a remarqués au passage.
Très bien, on va être obligé de se quitter puisqu'on attend Christophe Espern d'un moment à l'autre pour parler du projet de loi. Enfin, à chaque fois, on ne peut pas s'empêcher de dire projet de loi, ce n'est plus un projet de loi. On précise que les éditions Erol ont mis à la disposition des Rencontres Mondiales et de Divergence FM toute une série d'ouvrages que les auditeurs de Nancy ou d'ailleurs peuvent gagner en nous contactant à radio@rmll.info, radio@rmll.info. On vous renverra la liste des ouvrages puisqu'il y en a quand même pas mal. Et on essaiera de vous faire parvenir ça par une voix ou une autre. On salue nos amis des rôles qui nous quittent, et puis on va écouter Julian Angel qui va nous interpréter Born on the Seventh Day. C'est une musique sous licence Creative Commons, comme de bien entendu.
I was born on a seventh day. Why you are the killing of the world. I was born from your yesterday, and I'm not ashamed with breakable clay. You did hope I would not survive when you broke my strings. So let me tell, but you're so I would cry in your eyes. Come
Les gars, après votre loi, venez boire un petit coup chez moi. Dans mon canap, on écoutera la Starac. Sur mon iPod, y'aura plus que ça. On achètera de la musique copyrightée jusqu'au bouton play. Sur des sites de vente en ligne sécurisés pour faciliter l'accès à la diversité. Télécharger, c'est illégal. Le pire tout pire, c'est l'axe du mal. Il y a l'amateur et le professionnel. Un simple consommateur et un auteur. On pourrait refaire le monde à la lumière d'un monde plus libre. On pourrait ensemble récolter le fruit de notre travail commercialisé. On pourrait mutuellement s'aider sans avoir Universal comme allié. Se faire de la thune sans être abject envers ceux qui nous ont. Écoutez, je pourrais choisir mon mode de diffusion et sans prendre les gens pour des cons. On pourrait vivre avec son temps sans regretter celui d'avant quand le numérique naissait et qu'on pouvait pas copier les CD. Quand les majors choisissaient un artiste par tranche d'âge pour mieux se rincer. Télécharger, c'est illégal. Le pire tout pire, c'est l'axe du mal. Il y a l'amateur et le professionnel. Eh les gars, à cause de votre loi, j'irai bien me taper sur la gueule avec tous les éditeurs de vos systèmes de DRM. Ceux qui pensent que la répression, c'est la solution. Que l'éducation passe par la vulgarisation, parce qu'on ne s'adresse qu'à des cons. Qu'il y a le bien et le mal, et que le mal c'est nous. Parce que justement c'est un complot du mal, qui nous font croire qu'ils nous veulent du bien. Alors que c'est le mal, et que le mal c'est bien connu, c'est pas bien. Et tous ceux qui nous ont oubliés dans leur doctrine, la musique, toute la musique, avec tous ceux qui œuvrent à mettre nos crânes sous vide à rêver devant des compiles de disques. Eh hey les gars, on pourrait en faire une loi qui défendrait nos intérêts. On pourrait être tous potes, tous égaux dans un monde plus beau, mais sûrement les gars, que jusqu'ici j'ai chanté pour mes amis et pas ceux qui font semblant d'ignorer notre existence. C'est dommage parce qu'il y a urgence.
lovely girls got 32 women, everyone. Out of the innocence of the way, events all just one day. And some more of them please stay. Girls.
If I bring back butter, I should have got lost. When I get ready to fuck, my dick ain't hard. But don't blame me cheap, cause I'm skinning and grinning and doing my little laugh. Cause I'm the type of cocksucker to start an uprising in a motherfucker's ass. Yeah. I might as well get shitty right on down to the bone. You know, I beat three medications before I was gone.
Well, I got my home.
I got a 38 special built on a 45 train. It shoots tunes, no bullets, ball and chain. I sing graveyard songs, I ain't lying.
Got my mojo.
I'm a bad motherfucker, I don't mind lying. I put it down like a captain. I've done some shit that made the whole world work. I have to walk 44 miles of barbed wire. When I dress to go out, I wear a coat and stick for a necktie. My house is high on a cliff, and it hangs over the edge. It's made out of human skull. And if I don't start some shit, 20 badasses before noon, my whole day seems kinda dull. Yeah. Hydrochloric acid, and I keep me some around. I pissed next to a fireproof bomb shelter and burnt that motherfucker down. But I want you to excuse me for being so bold, but I'm the type of son of a bitch that crawl over 50 good pussies to get to one fat boy's asshole. You see, when I was young and in my prime, I could catch a hoe any old time. Now I'm old and gray and very cold, and can't get a bitch to save my soul. So up to it, down to it, and damn the man that won't do it, but he'll run his nasty hands.
Voilà, évidemment, c'est les joies du direct et on, heureusement qu'on s'est un petit peu improvisé. On a écouté Chenard Walker sur que vous pourrez trouver sur musique-libre.org. Un artiste carrément intéressant qui manie à merveille le coupé-collé, on va dire ça comme ça. Alors, Christophe Espern n'est pas disponible car il est très occupé aujourd'hui. On devine pourquoi. Mais on peut aussi poser la question à Nat Makarevitch, qui est un militant confirmé des logiciels libres, et ce depuis fort longtemps. Frédéric Couchet aussi est avec nous de la FSF. Le projet... J'y arriverai jamais. La loi DADVSI maintenant... Voilà, votre avis, votre opinion, est-ce qu'on va voir le bout du tunnel de cette ineptie juridique?
Bonjour. Mon opinion, en fait, ne correspond guère aux opinions qu'on entend et qu'on lit un peu partout depuis déjà un bon moment, en cela que je ne me mêle pas des intérêts des auteurs et je ne me mêle pas de quoi que ce soit qui relève d'espace et de disciplines qui me sont totalement étrangères, tels les aspects juridiques, légaux et tout ce qui s'ensuit. Je m'inquiète simplement d'une chose, comme une sorte de béotien, quoi, comme une sorte d'amateur,
candide.
De candide, absolument, soucieux de son petit espace de liberté, qui est lui-même le logiciel libre, prend conscience du fait que cet espace de liberté est menacé par des tierces parties qui entendent, de façon justifiée ou non, ça m'importe peu, qui entendent protéger le leur précaré. C'est un peu comme si votre voisin déclarait brusquement qu'il veut construire une piscine olympique et que par conséquent il va défoncer votre grillage. Moi, ça ne me dérange pas qu'il construise une piscine olympique. Hein. Pas du tout. Ça ne me dérange pas qu'il protège les auteurs, mais qu'il ne vienne pas nous les... C'est tout ce que j'ai à dire.
D'accord. Frédéric, une réaction?
Excuse-moi. Moi, je suis effectivement sur la même position que Nat. Ce qu'il faut bien voir, c'est que tout à l'heure, tu dis projet de loi d'ATSI. Il faut bien voir qu'il y a le Conseil constitutionnel qui va être saisi par le Parti socialiste. Ça devrait être annoncé, je pense, demain. Donc déjà, un certain nombre d'articles vont peut-être être censurés. Derrière, il faut que le projet de loi soit promulgué par le président de la République, qui peut décider, au vu de l'enjeu de ce projet de loi, de ne pas promulguer. Ça pourrait être un conseil qu'on pourrait lui suggérer. En 5 ans, il n'a pas fait grand-chose pour l'intérêt général. Il pourrait faire, avant 2007, finalement, une dernière action réelle et sérieuse pour l'intérêt général. Et ensuite, il y a les décrets d'application. Donc, le combat n'est pas fini. Et si on revient un petit peu sur les 3 ans de combat contre ce projet de loi, on a lancé l'initiative UCD.info en décembre 2002. Donc, ça fait 3 ans et demi. On a obtenu beaucoup de choses quand même. C'est-à-dire que certes, le projet de loi a été voté par l'Assemblée et le Sénat. On a quand même obtenu un certain nombre de choses dans le projet de loi, mais il est globalement inacceptable. Mais ce qu'on a obtenu surtout, c'est une mobilisation extraordinaire qui dépasse le simple cadre, je dirais, de nos activités classiques, c'est-à-dire logiciels libres. Il suffit de le voir sur 2 choses. Un, c'est la pétition UCD.info. Elle a été signée par 170 000 personnes et 1000 organisations, avec des vérifications de signatures. Hein, c'est très important. Il y a des gens qui viennent d'un tissu économique et social très très large. Il y a des gens du logiciel libre, il y a des artistes, il y a des groupes politiques, donc c'est très 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 large. Et la deuxième chose, c'est la mobilisation qui a lieu auprès des sénateurs et des députés dans la dernière ligne droite. C'est-à-dire que nous, au niveau de UCD.info, on a lancé un appel à agir dans les derniers jours pour que les gens appellent leurs députés et leurs sénateurs. Et on a eu beaucoup, beaucoup de retours. Par exemple, l'un des candidats à la présidentielle 2007 a reçu sur ce seul projet de loi 500 courriels. Sans lettre type, c'est-à-dire c'est des gens qui écrivaient leur propre courriel pour expliquer en fait les problématiques que leur posait ce projet de loi. On a eu des échos d'assistants qui étaient débordés de coups de téléphone sur ce sujet-là. Donc il y a une vraie mobilisation. Et les deux enjeux essentiels qui nous préoccupent, nous, je dirais, c'est le logiciel libre et l'interopérabilité. Ils ont été largement évoqués. Ils sont arrivés sur la place publique. Alors certes, c'est pas encore fini, mais je pense que dans les combats qui vont suivre derrière, c'est-à-dire notamment sur le suivi des effets du projet de loi et sur les directives européennes qui vont arriver derrière, cette mobilisation pourra servir de base de travail pour continuer à se battre contre effectivement un certain nombre de restrictions de liberté individuelle pour finalement mettre en place un projet de loi qui ne règle pas le but initial du projet de loi, qui est la rémunération des auteurs. Ce projet ne règle absolument rien. Donc il va falloir y revenir. Je pense qu'on a une bonne base de bataille et de mobilisation. Donc quelque part, il y a quand même eu des effets positifs dans ce projet de loi.
Albert,
Justement, tu parlais des médias. À part, on va dire, les médias spécialisés, on n'a pas remarqué particulièrement, que ce soit sur les radios nationales, même sur les chaînes de télévision, ce projet faire la une ou même faire une aparté dans les journaux.
Il y a eu quand même beaucoup de journaux qui ont passé des articles, la Tribune, les Échos, Libération, etc. Et en ce qui concerne les radios, il faut quand même voir qu'il y a eu beaucoup d'interviews qui ont été faites pour des radios type France Inter, BFM, etc. sur le projet de loi. Vali, qui anime une émission tous les samedis sur la musique, a fait 2 émissions sur le sujet avec UCD.info. Donc l'un sur le projet de loi en tant que tel et l'autre sur les DRM. Nous, quand on a tenté de remettre la pétition en décembre 2005 au Premier ministre, il y avait France 2 qui était là, qui a fait un reportage, il y avait LCI, ITélé. Donc je pense au contraire qu'il y a quand même eu, par rapport aux sujets qui sont habituellement traités par nous, une percée justement dans les médias traditionnels. Alors même que ces médias traditionnels, normalement, sont là pour véhiculer, je dirais, la propagande habituelle des majors et aussi des éditeurs de l'échelle propriétaire. Et je crois que les politiques ont bien compris qu'aujourd'hui, le média Internet est un média qu'ils ne peuvent pas maîtriser et qui a des effets de bord très importants. On l'a vu sur le débat sur le TCE. Peu importe ce qu'on pense du TCE, est-ce qu'il fallait voter pour ou contre, mais on peut constater une chose, c'est que les médias traditionnels étaient en faveur du oui. Il y avait une propagande très forte. Et la mobilisation qui a eu lieu sur Internet a permis de toucher des gens qui finalement ont voté contre. Et c'est en grande partie la mobilisation sur Internet et les débats qui ont eu lieu qui ont permis de voter contre le TCE, quoi qu'on pense du fond du problème. Et je pense que les politiques n'ont pas compris, enfin certains, que sur le projet de loi droit d'auteur, se mettait en place la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie mobilisation sur Internet, qu'il y avait déjà des effets de bord dans les médias traditionnels, mais aussi dans les gens qui vraiment ne se préoccupent pas de ces sujets-là. Moi, j'ai été frappé, par exemple, de voir qu'en décembre 2005, quand j'ai passé mes vacances en Franche-Comté, dans ma belle famille, plusieurs années que je vais là-bas, c'est la première fois qu'on m'a parlé de ce que je faisais au jour le jour. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que je fais du logiciel libre, mais eux, ça les préoccupait pas plus que ça. Mais la première chose que m'a dit le grand-père de ma femme, quand il est arrivé à la maison, il m'a dit, dans l'Est républicain, ou je sais plus quel journal local, il y avait un article sur le droit d'auteur, le projet de loi d'Atsi, il m'en a parlé. Et là, on a touché avec ce projet de loi des gens qu'on ne touchait pas avant. Et je pense que c'est quelque chose, c'est pour moi une base de travail, une base de mobilisation importante.
On a souvent pointé du doigt l'ignorance crasse parfois des politiques en matière justement des technologies, des implications que ça peut avoir, de la réalité, on va dire, de ce qui se passe dans la vie des gens et la vie du développement de l'informatique. Est-ce que cette ignorance est en voie de régression, à votre avis, grâce justement à tout ce tapage ?
Non, je crains qu'elle ne soit pas en voie de résorption pour la bonne et simple raison que ceux qui disposent des moyens les plus importants, de l'organisation la plus efficace, sont ceux qui diffusent le plus efficacement une information elle-même préparée de façon la façon la plus efficace, la façon à toucher. À ce titre, de puissants lobbies, de puissantes associations de producteurs de d'informations ou d'autres hein, divers et variés ont toujours été, sont et vraisemblablement seront encore pour un moment plus puissants que quelques volontaires isolés et même que quelques associations si puissantes soient-elles. Je pense qu'une incohérence majeure de ce projet, et je reprendrai le propos de Fred, relève du fait qu'en fait, la loi, la disposition des ADVSI, vise à protéger un élément de propriété. On cherche à préserver les droits de l'auteur qui s'exerce en fait en fonction de sa propriété, quant à l'œuvre, de sa relation, quant à l'œuvre, une relation de type propriété à mon sens. Et pour cela, on déploie l'outillage employé pour protéger les droits de l'auteur, les fameuses mesures techniques de protection, les fameuses MTP, est un outillage qui limite les droits de propriété du consommateur, de l'utilisateur, par exemple de micro-ordinateur, sur sa propre machine. Jusqu'à présent, les logiciels que qui se soit installe sur un ordinateur le servent. Personne n'installe de logiciel qui ne le sert pas. Même les logiciels qui limitent les fonctions de l'utilisateur, pour simplifier du propriétaire de la machine, sont débrayables. Vous avez un mot de passe administrateur sur votre machine, un mot de passe root sous Linux. En dernier recours, vous êtes le maître à bord. J'ai acheté un ordinateur, je l'emploie, j'y installe des logiciels. Aucun des logiciels n'est plus maître à bord que moi aujourd'hui. Avec les MTP, cette époque est révolue. Et cette incohérence majeure qui consiste à protéger la propriété des uns, ce qui est effectivement l'un des rôles de l'État, et ce qui est effectivement dans l'état actuel du corps social me semble difficile à disputer, s'exerce aux dépens des autres qui sont de surcroît le plus grand nombre. Il y a une incohérence majeure qui est évidente à dénoncer et qui n'apparaît nulle part dans les savantes études, commanditées bien entendu par ceux qui sont détenants de DADVSI.
Justement, par rapport à la société civile qui était majoritairement contre ce projet de loi, normalement une loi elle doit être votée pour le, on va dire pour le plus grand groupe en fait, ce qui représente la société. Une loi doit refléter ce qui se passe dans la société. C'est complètement l'inverse qui s'est passé.
Pas exactement. Enfin, je suis pas expert en ces matières, mais il me semble que justement l'une des dispositions que permet la démocratie plus ou moins directe, c'est de préserver y compris les intérêts du plus petit nombre. Parce que ce que tu dis là, en gros, c'est le plus grand nombre dans l'emporter. Donc si un jour nous sommes tous aux yeux verts à décider de tuer ceux qui ont des yeux noirs, ils doivent pouvoir. Ça serait complètement absurde. Bon, je pousse à l'absurde, mais c'est un peu l'idée. Je crois pas qu'on puisse se réfugier derrière cela.
Par rapport à un usage, par rapport à une coutume.
Oui, mais l'usage du plus grand nombre ne peut pas s'exercer aux dépens du plus petit nombre. Si tu reconnais je ne crois pas qu'il y ait là une raison de repousser des ADVSI, pour être très franc. Parce que de deux choses l'une, soit tu refuses la relation de propriété qu'a un auteur à son œuvre, et dans ce cas-là, il faut réformer la société, parce que le droit de propriété est l'un des fondements hein, de ce qui nous entoure, soit tu l'acceptes. Et si tu l'acceptes, les moyens que veut déployer l'auteur ou ses représentants pour protéger sa propriété, tu ne peux les disputer que s'ils limitent tes propres moyens, ta propre liberté. Et c'est en cela que moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont le droit de protéger comme bon l'ensemble, ça ne me dérange pas, c'est leur liberté. Leurs œuvres leur appartiennent, ils pourraient décider de ne pas les publier. Je ne dispute, en mon nom propre, là je parle en tant que Nat, hein, je ne dispute absolument pas cela. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais moi en tout cas, je suis attaché à ça. Je ne remets pas en cause la notion de propriété. En revanche, quand pour exercer leur droit de propriété, ils menacent ma liberté, par exemple d'utiliser ma machine, par exemple d'utiliser le logiciel libre, je deviens nerveux.
Oui, d'ailleurs, là-dessus, si je me permets de rajouter, c'est vrai que le droit de propriété est un droit inaliénable, et notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais je voudrais rappeler une chose, c'est qu'à l'époque, c'est de la propriété matérielle. Là, on parle de propriété immatérielle, donc les fonctionnements ne sont pas les mêmes. Et dans la Déclaration donc, des droits de l'homme et du citoyen, l'une des autres libertés fondamentales, c'est la résistance à l'oppression. Et aujourd'hui, on est dans une situation où, à mon avis, on est dans le cadre de... On peut faire appel à la résistance à l'oppression, ce qu'on appelle aussi la désobéissance civile, parce qu'effectivement, un certain nombre, pour conserver, je dirais, un précaré, remettre en cause très largement les libertés individuelles. Et ça, c'est un point qui est fondamental dans ce combat-là. Alors, ça rejoint les appels au boycott pour les produits DRM, etc. Donc, ça, c'est important de rappeler, quand on parle de propriété, il ne faut pas confondre la propriété matérielle et immatérielle. Et dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est la référence, c'est la propriété matérielle. La propriété matérielle, c'est autre chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Et pour revenir sur les lobbyistes, moi, j'aurais juste rappelé une chose. C'est-à-dire, c'est pas nous qui le disons. Sur France 5, il y a une émission, il y a peut-être un mois ou deux, d'Yves Calvi, qui revenait sur la démocratie et notamment le fonctionnement des institutions. En gros, le propos des députés qui étaient présents et d'Yves Calvi, c'était de dire que les institutions actuelles françaises ne fonctionnent pas trop, qu'elles faudraient être réformées. Et il prenait comme exemple parfait de bug législatif le projet de loi DADVSI. Le projet de loi qui a été soumis au plus grand nombre de pressions de lobby, jusque dans l'hémicycle, c'est-à-dire qu'un endroit où seuls les députés et assistants de députés peuvent être présents, il faut quand même le savoir, c'est que Jacques Blache, par exemple, lobbyiste de la SACEM, est présent dans l'hémicycle, et personne n'est capable de dire aujourd'hui à quel titre il est présent. Ça a été dénoncé par Michel Charras, qui d'ailleurs, il y a quelques années, lors d'une précédente discussion sur les projets de loi de droit d'auteur, avait déjà demandé au Sénat l'exclusion de Jacques Blache. Donc il y a un problème démocratique sur ce projet de loi qui est évident, et rien que pour cela, ce projet de loi devrait être retiré. Et un rappel, un député UMP, Bernard Carayon, sur France 2, a dénoncé des pratiques de lobbying anti-républicaines et que la morale réprouve. C'est quand même un député UMP qui fait dans l'intelligence économique, donc c'est pas un charlot, et il dénonce des pratiques anti-républicaines et que la morale réprouve, et finalement on laisse quand même passer ce projet de loi. Donc rien que sur les conditions d'examen du projet de loi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors je sais pas si ça sera au niveau du Conseil constitutionnel ou autre, mais à mon avis, rien que pour ça, on devrait retirer ce projet de loi.
J'aimerais aussi ajouter que lorsque je parlais de droit de propriété portant également sur la protection donc de la propriété immatérielle, je faisais référence au droit français plutôt qu'à à d'autres textes. Et le droit français, à l'évidence, protège la propriété immatérielle, puisqu'il protège notamment les brevets. C'est tout ce que j'avais à dire.
D'accord. Alors je précise que ce matin, Christophe Espern a fait un exposé de l'histoire houleuse de ce texte, qui, à son sens, prétend servir le droit d'auteur, alors que les auteurs sont complètement, tous sont bénéficiaires, sauf les auteurs et les consommateurs dans ce texte.
Si on résume, il y a donc vice de procédure, objectif non atteint, puisqu'il ne protégerait mal les auteurs, semble-t-il, et effet de bord majeur, puisqu'il limite la liberté de tierce partie, ce qui est quand même assez scandaleux.
Et on peut rajouter un dernier point, c'est que le projet de loi est censé transposer une directive européenne de 2001, qui est la directive EUCD. Et l'Europe a annoncé l'an dernier, et l'a confirmé il y a quelques mois, qu'une une revue d'évaluation a été lancée depuis quelques mois, simplement parce qu'ils n'ont pas parfaitement conscience que la directive européenne n'atteint pas ses objectifs et pose un certain nombre de problèmes. Donc on a transposé un projet de loi alors que l'Europe, on a transposé une directive alors que l'Europe reconnaît elle-même que la directive est caduque et veut la réformer. Il aurait été plus logique d'attendre que l'Europe nous dise comment réformer la propre directive avant de transposer cette directive dans le droit français.
Peut-être pour terminer, il y a de l'espoir ? Il y a toujours de l'espoir ?
Il y a de moins en moins d'espoir à mesure que des puissants qui n'ont en fait guère intérêt vis-à-vis des auteurs ou du logiciel libre emploient des ADVSI, s'y rallient, en deviennent des tenants, afin de, entre autres, contrer le logiciel libre. Des ADVSI est assez rapidement devenu une arme entre les mains d'adversaires du logiciel libre.
Là-dessus, est-ce qu'il y a de l'espoir ? Moi, je rappellerai juste ce que disait Gandhi. Au début, ils vous ignorent, ensuite ils rigolent, après ils vous combattent et à la fin ils perdent. Aujourd'hui, ils sont dans la phase, ils nous combattent. On l'a vu sur Libération il y a deux jours, je crois, où il y a une tribune qui a été postée, publiée dans Libération par le président de la Fondation Robert Schuman qui attaque le logiciel libre comme quoi ce serait en gros contraire au marché, à l'économie des services, etc. On est dans une phase où on est combattu. Mais je pense que fondamentalement, le modèle que ces gens-là défendent est mort-né. C'est-à-dire qu'ils essayent de conserver pendant quelques temps, alors ça va peut-être durer 2-3 ans, 10 ans, je ne sais pas, une situation, mais qu'au fond, c'est mort-né. Et la mobilisation qu'il y a eu sur Internet là-dessus, sur le projet de loi, je pense qu'elle va se poursuivre. Et je pense que les gens vont faire un suivi aussi du positionnement des différents interlocuteurs qui sont intervenus sur le sujet, et notamment les députés. Moi, je suis convaincu que lors des prochaines élections, et je pense pas simplement à la présidentielle, mais aussi aux législatives, en local, les gens iront voir les députés pour leur rappeler quel aurait été leur positionnement. Et je pense que donc, il faut être optimiste. De toute façon, on l'a vu sur la directive brevet logiciel, on s'est battu à partir de 99. Je pense qu'en 99, il n'y avait pas grand monde qui pouvait dire qu'on allait gagner. Pourtant, en juillet 2005, la directive a été rejetée. Là, l'Europe est en train de revoir la directive européenne EUCD. Donc forcément, la France va revenir sur le projet de loi. Il faudra juste être là, à ce moment-là, pour effectivement pousser les notions qui nous intéressent et effectivement revenir sur l'essence de ce projet de loi, qui était au départ effectivement la rémunération des artistes, mais en tenant compte des autres acteurs, c'est-à-dire le logiciel libre, les consommateurs, l'interopérabilité, etc.
Très bien, je crois qu'on va refermer là en rappelant à nos auditeurs du 94.2 sur Radio Fadjet à Nancy, pour les Montpelliérains, ça sera un petit peu dur, qu'ils peuvent venir cet après-midi à l'Université Henri Poincaré, Faculté des Sciences et Techniques de Vendeuvre-les-Nancy, pour assister à cette table ronde qui, à mon avis, méritera d'être entendue, écoutée, appréciée, et dont on essaiera de vous diffuser quelques petits extraits dans l'émission de demain, qui aura lieu comme aujourd'hui à 13h. Remercie Frédéric Couchet, Nat Makarevitch d'être venu nous donner leur point de vue. Albert, on va se quitter là en rappelant que... En rappelant quoi ?
En rappelant qu'on se retrouve demain.
Voilà, c'est une bonne idée.
Voilà.
On se retrouve demain à 13h et en attendant, libérez-vous.
Weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction.
Nuclear. Nuclear.
Weapons of mass destruction. They will not hesitate to use them.